Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez, nous avons commencé toute une série de prédications sur la première épître aux Corinthiens, et donc la méditation de ce matin se trouve dans la suite. À partir du chapitre 7, Paul répond à différentes questions que lui ont posées les Corinthiens, et les enfants doivent bien écouter parce qu'ils vont très vite avoir la réponse aux deux premières questions du questionnaire. Le texte qui nous intéresse ce matin, c'est le chapitre 15, de la première épître aux Corinthiens. Et en lisant quelques commentaires sur ce passage, j'ai vu que pour beaucoup, ce chapitre est considéré comme l'un des 10 chapitres les plus importants de la Bible. Donc quand vous devez préparer une méditation là-dessus, vous dites attention, là, il y a probablement des sujets d'importance à côté desquels il ne faut pas passer. Et donc je me suis demandé, mais quelle peut bien être la question qu'ont posé les Corinthiens pour qu'on considère ce chapitre comme aussi important? Eh bien cette question, on la trouve au verset 12. Comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Donc le thème principal de ce chapitre 15, on le trouve clairement dans ce verset, il s'agit de la résurrection des morts. Alors on peut s'étonner que cette question soit posée à Paul, parce qu'on se dit, toute personne qui a lu les Saintes Écritures sait qu'elles enseignent que Christ est ressuscité et que tous ressusciteront. Alors ils n'ont pas encore le Nouveau Testament, mais ils ont directement l'enseignement de Paul, qui est clair sur ce sujet. Alors si certains se posent des questions sur la résurrection des morts, est-ce que c'est parce qu'ils se posent des questions sur la résurrection de Jésus? Ça m'étonnerait que ce soit le fond de leur pensée, parce que sinon je pense qu'ils ne méritent pas le titre de chrétien. Non, je crois que ce qui leur pose problème, c'est la résurrection des morts, de tous les morts, et pas seulement de Christ. Alors on va essayer de comprendre. Pourquoi est-ce que certains sont amenés à douter? On a eu l'occasion de rappeler à ce micro déjà le contexte de l'église de Corinthe à l'époque. Corinthe, c'est en Grèce, et bon, la culture grecque, on sait, fait une distinction entre le corps et l'âme. Et pour les Grecs, l'âme est immortelle, mais le corps, lui, est destiné à disparaître. Et puis toujours, quand on pense à la culture grecque qui est basée sur la raison, on se dit, croire en la résurrection des corps, c'est pas raisonnable. Avez-vous déjà vu un corps ressuscité? Moi non. C'est plutôt le contraire auquel on assiste. Nos corps sont malades, ils vieillissent, et tout ça c'est des évolutions naturelles qui mènent à la mort. Et pour nous, c'est inéluctable. Un de mes amis médecins disait « La vie est une maladie mortelle sexuellement transmissible. » Une approche purement scientifique amène à conclure que la résurrection des corps est impossible. Alors, il y a bien quelques animaux qui ont la faculté de régénérer une partie de leur corps qui a été amputée. Vous en connaissez, les enfants? Les lézards, qui perdent leur queue et la queue peut repousser, oui. Alors là, je dirais pas le contraire. Pour tout renseignement, donc vous vous adressez à l'auteur de cette parole. Mais en tout cas, même si les queues repoussent, etc., eh bien, finalement, ces animaux meurent. Deux exemples aussi, on voit bien que ce n'est pas du tout raisonnable. Quand Paul, après avoir été arrêté par les Romains, présente sa défense devant le procurateur Festus et le roi Agrippa, il réussit à capter toute leur attention jusqu'au moment où il confesse sa croyance en la résurrection de Jésus. Et là, Festus l'interrompt et lui dit « Mais tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. » Ou encore, quand Paul est à Athènes, qu'il est face à l'Areopage et qu'il leur parle d'un Dieu inconnu, là aussi, tout le monde est intrigué. Mais quand il parle de résurrection, là, il dit « Bon, ça va pour aujourd'hui, on t'écoutera là-dessus une autre fois, et je ne suis pas sûr que tous ceux qui étaient venus la première fois soient revenus la deuxième. » Croire en la résurrection des morts, ce n'est pas raisonnable. outre qu'on n'a jamais vu un homme ressuscité, même si on dit bien qu'un certain Jésus est ressuscité, la résurrection pose trop de questions auxquelles nous sommes incapables de répondre. Même chez les Juifs, qui avaient pourtant, eux, une bonne connaissance de l'Ancien Testament, qui annonce déjà la résurrection des morts, il y a un parti qui prétend que les morts ne ressuscitent pas, on les appelle les Sadducéens. Et chez certains chrétiens, Paul dit dans la seconde épître à Timothée que certains se sont détournés de la vérité et disent que la résurrection est déjà arrivée et que ça ébranle la foi de quelques-uns. Dans le livre des Actes, Paul résume très bien la question « Quoi, vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts ?» Alors évidemment, il n'a pas la même réponse à cette question-là, mais oui, c'est vraiment une question qui se pose, et aujourd'hui encore, peut-être plus encore qu'avant, beaucoup répondent « Mais non, c'est pas possible. » Il est bien difficile de croire en ce que nous ne voyons pas, en ce que nous ne comprenons pas, et lorsque les Écritures nous disent quelque chose qui nous paraît difficile à croire, eh bien, on a tendance soit à l'écarter, soit à l'oublier, soit à tordre un peu le sens des Écritures pour que, eh bien, ça devienne acceptable. Comme nous le verrons dans les versets que nous lirons, la question de la résurrection des morts est vraiment une question fondamentale et lourde de conséquences. Alors, je raisonnerai en trois parties. On commencera par examiner la réponse que Paul apporte aux Corinthiens. Je tenterai ensuite d'apporter modestement quelques réponses aux questions qu'on se pose quand on pense à la résurrection. Et puis je vous poserai quelques pistes d'application du texte étudié aujourd'hui. Comment Paul répond-il à ceux qui doutent, voire nient la résurrection des morts ? Alors je ne lirai pas le texte dans son intégralité, mais vous verrez qu'au fur et à mesure du message, on couvrira peut-être les deux tiers à peu près des versets. Je commence par les deux premiers. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Paul commence par un rappel. Quand je vous ai annoncé le message, vous y avez cru. L'idée sous-jacente, c'est peut-être, est-ce que vous auriez changé d'avis ? Est-ce que vous êtes en train de remettre en question une partie de mon enseignement ? Alors il continue par une mise en garde, ce que je reformule, c'est la foi en l'évangile véritable qui sauve. Et il attire l'attention des Corinthiens sur les conséquences de leur déviance. Il leur dit, si vous croyez seulement en votre version de l'évangile, un évangile édulcoré dont on aurait enlevé les points qui vous dérangent, si vous ne conservez du message divin que ce qui vous convient, et si vous rejetez le reste, alors on lit au verset 17, vous êtes encore sous le poids de vos péchés. Et Paul continue en rappelant ce qu'il a enseigné à Corinthe comme ailleurs. On reprend la lecture au verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Et là, j'ouvre une parenthèse. Comment est-ce qu'il a reçu l'évangile, Paul ? Les jeunes, là, est-ce que vous savez comment Paul a reçu l'évangile ? Eliott ? Excuse-moi, je ne connais pas ton prénom. Léo, alors Léo. C'est ça. C'est ce qu'on appelle son chemin de Damas. Il était en route sur Damas et Jésus est intervenu en l'éblouissant, en le rendant aveugle, etc. Et c'est là que Paul a eu cette révélation. Donc vous voyez, ici, il leur dit, il leur rappelle, les Corinthiens savent comment Paul a reçu sa révélation, donc il leur dit, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Au verset 11, « Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts ? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. » Paul commence son argumentation en rappelant ce que j'ai appelé l'historicité de la résurrection de Jésus. Alors, historicité, c'est un mot compliqué, qui veut dire qu'en fait, la résurrection de Jésus, ce n'est pas quelque chose qui se discute, c'est un fait qui a eu lieu. Personne ne doute que Charlemagne ait été couronné empereur en l'an 800. Eh bien, Jésus est ressuscité en l'an... Bon, là, on a un petit doute sur la date, mais il est ressuscité. C'est un fait historique, attesté par de nombreux témoins. Et à l'époque où Paul écrit, il y a des centaines de personnes qui peuvent en témoigner. Comment comprend-on que les disciples de Jésus, qui vivaient dans la crainte, qui se cachaient après la crucifixion, aient accepté ensuite de subir le martyre et de donner leur vie s'ils n'avaient pas eu la conviction que Christ était réellement ressuscité? Où aurait-il puisé cette force, cette assurance? Comment expliquer la conversion de Paul si Jésus ne lui est pas apparu? On peut rappeler que tous les apôtres, à l'exception de Jean, sont morts de façon violente. J'ai trouvé cette remarque qui m'a paru très naturelle et très convaincante. Personne n'a jamais accepté de donner sa vie pour ce qu'il croyait être un mensonge. On ne donne sa vie que quand on est pleinement convaincu. Un premier enseignement à retenir, prenez des notes. Prêcher l'Évangile, c'est pas seulement témoigner et dire ce que Dieu a fait pour nous. Il nous faut aussi rappeler que la résurrection de Jésus, c'est un fait historique. Jésus est vraiment ressuscité. Et on a bien plus de preuves de la résurrection de Jésus qu'on en a de beaucoup d'autres faits qu'on ne remet pas en cause. L'Évangile, ce n'est pas une philosophie ou simplement un recueil de règles à suivre. C'est l'annonce d'une intervention de Dieu pour résoudre le problème du péché qui entraîne la mort de l'homme. Paul dira ensuite que nier la résurrection des morts revient à nier la résurrection du Christ. Quelle est la logique de son raisonnement? Christ était pleinement homme. Si les hommes ne ressuscitent pas, Christ ne ressuscite pas. Alors peut-être objectera-t-on, oui, mais Christ, ce n'était pas un homme comme les autres. Il était Dieu. C'est pour ça que lui est ressuscité, mais les autres, non. Alors, petits et grands, qu'est-ce que vous répondriez à ça? Pourquoi le fait d'argumenter que Christ étant divin, c'est pour ça que lui est ressuscité, pourquoi cet argument-là, à vos yeux, il ne tient pas? Il s'est fait homme. Mais je pense que les gens devaient jouer sur la dualité en disant « Oui, mais ce n'est pas Christ homme, c'est Christ Dieu qui est ressuscité. »
Mais est-ce qu'on a déjà vu un Dieu naître de manière réelle, depuis le corps de femme, tout simplement?
Oui. Oui, il était homme. J'essaye de me faire l'avocat de la partie inverse. Hein. Ma réponse, c'est de dire, ben, un Dieu qui meurt, c'est pas courant quand même. Dieu n'est pas éternel par définition. Donc Jésus-Dieu serait mort. Je ne sais pas, là, moi, pour moi, il y a une contradiction, il y a quelque chose qui ne va pas. Puis, les paroles de Jésus lui-même. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Quand Jésus parle lui-même de la résurrection, il ne parle pas de la sienne. À d'autres moments, oui, bien sûr, mais pas à ce moment-là. Là, il parle de la résurrection des hommes. Il y a probablement plein d'autres arguments. Je m'arrête là pour l'instant. Paul continue son argumentation en pointant les incohérences de ses opposants. Au verset 14, si nous reprenons la lecture, « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. » Et Paul insiste, « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. » Paul insiste là en leur disant, « Mais vous ne vous rendez pas compte de la portée de votre objection. Si ce que vous dites est vrai, tout ce que vous dites d'autre est faux. » Nier la résurrection des morts rend notre foi vaine et nous prive de la grâce de Dieu. Alors je me suis posé la question, est-ce que nous nions la résurrection des morts? Alors j'ai jamais entendu dans cette église, ni dans celle que j'ai fréquentée auparavant, quelqu'un nier la résurrection des morts. Mais est-ce que proclamer comme ça, ouvertement, que les morts ne ressuscitent pas, c'est la seule façon de nier la résurrection des morts? Vous allez dire, sa question elle est un peu tordue, un peu compliquée là. Est-ce que il y a une différence de vivre entre les gens qui nient la résurrection des morts et la mienne? Est-ce que, dans notre vie de tous les jours, simplement oublier qu'il y aura une résurrection, est-ce que d'une certaine façon, ça n'a pas les mêmes conséquences que de croire qu'il n'y en aura pas? C'est ça ma question, en fait. Oui, effectivement, on peut... Je rebondirai là-dessus plus tard dans la prédication. Non, mais il n'y a pas de souci, on peut interagir. Il y a ce verset 19 qui m'avait déjà bien intrigué auparavant, qui dit « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » C'est bien ce que tu disais, Aurore. Alors d'une certaine manière, ce que dit Paul est exagéré, parce que celui qui met en pratique les enseignements de Christ, il nous est dit qu'il construit sa maison sur le roc, et donc il en tire déjà certains bénéfices immédiats. Mais il est vrai que pour certains, suivre Jésus, ça peut signifier beaucoup de sacrifices, perdre des biens, des amis, voire la vie. Et s'il n'y avait pas l'espérance d'une récompense éternelle, à quoi ça leur servirait d'obéir à la parole de Dieu? Si on oublie la promesse de la résurrection de la vie éternelle, alors on peut percevoir la vie chrétienne comme une suite de renoncements pénibles, une vie de sacrifice. Par contre, si nous croyons que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous, Romains 8, verset 18, alors nous sommes encouragés à persévérer dans l'obéissance à Christ. J'en arrive à ma deuxième partie, avec une question pour les petits, et s'ils ne trouvent pas, pour les grands. Pour répondre à ces questions, je me suis inspiré de la méthode QQO-QCP. Qu'est-ce que ça peut bien être que cette méthode QQO-QCP? Il y a des étudiants qui doivent avoir croisé ça déjà. Je dois confesser que c'est Myriam qui m'a appris cette méthode, moi non. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Qu'est-ce que ça peut bien être? Je vous laisse réfléchir et j'avance un peu dans la méditation. Juste pour, préciser dans quel état d'esprit j'ai préparé cela, je vous fais une courte citation de Calvin, qui est une espèce de mise en garde. Il dit « C'est faire preuve d'une audace folle que de s'enquérir de choses inconnues est supérieur à ce que Dieu nous permet de savoir à leur sujet. » qui sera le maître ou le docteur qui nous enseignera ce que Dieu nous a caché? Clairement, pas moi ce matin. Dans un autre passage, Calvin déclare « Nous sentons bien que nous sommes agités par une envie démesurée d'en savoir plus qu'il n'est permis, ce qui nous conduit quotidiennement à poser des questions inutiles dont on ne peut tirer aucun profit. » Voilà, si vous posez des questions, ben, vous voyez ce qu'en pense Calvin. Mais il y a pire. Ceux qui se laissent aller à tenter de percer ce mystère se livrent à des spéculations mortelles. Voilà pourquoi je dis que ces questions sont néfastes. Rassurez-vous, je ne vais pas dire mon point numéro 3. C'est simplement, je pense que Calvin veut attirer notre attention sur le fait qu'on a entendu beaucoup de délires sur la façon dont va se passer la résurrection, etc. Donc, le seul but de cette introduction, c'est de dire, ben, contentons-nous de ce que l'Écriture nous dit, c'est peut-être un point de vue beaucoup plus sage. Alors, QQOCQP. Le premier Q. Qui ressuscitera? Une réponse parmi d'autres, de Paul, j'ai cette espérance qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Matthieu 25 aussi. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui, Jésus. Et donc là, vous avez le tympan d'une église qui représente cette scène. Il les divisera en deux groupes. Tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Après quoi, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. » Et au verset 41, « Puis il se tournera vers ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous loin de moi, vous que Dieu a maudit, et allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. » L'image est parlante, il y a un troupeau qu'on sépare en deux. Donc, tous ressusciteront. Voilà, pardon, j'ai confondu mon écran. Tous les hommes, toutes les femmes, hein, aussi, pas de doute là-dessus. Pourtant, aujourd'hui, une grande majorité n'y croit pas. Et je me dis que c'est une ruse du diable que de donner à penser que la mort, c'est la fin de tout. C'est une façon de nous faire oublier qu'un jour viendra pour les uns des récompenses et pour les autres le jugement. En matière de justice, on parle du caractère dissuasif de la peine. Quand on sait ce qu'on encourt, on est plus prudent et ça nous évite de fauter. En matière de rémunération, on parle de prime de résultat, d'intéressement aux bénéfices. Quand on sait ce qu'on a à gagner, eh bien on est plus motivé pour obéir. Dire qu'il n'y a rien, c'est nous priver à la fois d'une mise en garde et d'un encouragement. Deuxième question, quand ressusciterons-nous? Alors là, il y a autant de réponses que d'orateurs. Que dit 1 Corinthiens 15 au verset 22? Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Donc, son rang, ça veut dire dans un certain ordre donné. Christ comme prémisse, donc comme en premier, puis ceux qui appartiennent à Christ, deuxième catégorie, lors de son avènement. Donc quand? Lors de l'avènement du Christ. Au verset 51, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Ah, j'entendais un jour un prédicateur qui disait, c'est pour ça que je ne veux pas de trompette dans mon église. J'ai toujours peur que l'assemblée disparaisse, c'est évidemment une boutade. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. Nous ressusciterons quand Christ reviendra. Et dans la deuxième partie du texte que j'ai lu, on voit que Paul croit à l'imminence de la résurrection. C'est-à-dire, il imagine que la résurrection va arriver vite. Je ne suis pas dans sa tête, mais j'imagine que peut-être il se dit que sa génération va la connaître, cette résurrection. Un autre texte, 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et à ceux qui trouvent que ce n'est pas assez précis, eh bien Jésus lui-même dit dans Acte 1, verset 7, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Donc on est clairement dans le domaine où Dieu ne veut pas qu'on sache. Fin de la discussion. Comment ? Là encore, verset 35, c'est une question que Paul aborde. Comment les morts ressusciteront-ils et avec quel corps reviennent-ils? J'imagine que la réponse de Paul fuse, mais insensée. Pourquoi il les traite d'insensés? Est-ce qu'il est surpris de la question? Je crois plutôt qu'il... Enfin, oui, il est surpris en se disant, mais enfin, la réponse est évidente. Verset 36. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé, peut-être, ou quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Paul montre ici la complexité de la nature et la maîtrise de Dieu sur des phénomènes que nous observons mais que nous ne comprenons pas. Pour décrire la résurrection des morts, Paul prend une image, c'est l'image de la graine, qui doit mourir pour donner naissance à une plante. On ne peut pas dire que quand on regarde la graine, on a une image de ce qui va pousser. Hein, quand vous regardez une semence, difficile de savoir, quand vous la mettrez en terre, ce qui va sortir. La graine et la plante ne se ressemblent pas, mais l'une est la continuité de l'autre. Et Paul nous dit, il en est de même de nos corps naturels qui mourront pour donner naissance à nos corps spirituels. Comment les corps ressusciteront-ils? La réponse de Paul, c'est, si vous voulez noter les enfants, comme la nature l'enseigne, nos corps ressusciteront comme Dieu agit dans la nature. Comment sera notre nouveau corps? Ah, ça, vous n'êtes jamais posé la question? Nous avons lu que, premièrement, Christ ressuscitera, il est présenté comme les prémices. Or, si on prend les prémices agricoles, c'est les premières. La première partie de la récolte, eh bien, on sait que les prémices, c'est la même nature que ce qui vient ensuite. Donc ça explique la continuité. Jésus avait la même apparence. Les disciples l'ont reconnu quand il leur est apparu après la résurrection. Jésus a mangé avec les disciples. Donc probablement qu'on mangera quand on sera ressuscité. Ça fera plaisir à certains, moins à d'autres. Nos corps ressuscités ressembleront en partie à nos corps naturels. Par contre, Jésus entrait dans une pièce sans ouvrir la porte. Il est monté au ciel sans ascenseur ni hélicoptère. Donc manifestement, il y aura des propriétés du corps que nous n'imaginons pas encore. Corruptible, incorruptible. Méprisable, glorieux. Infirme, plein de force. Animal, spirituel. J'ai écouté une prédication de Florent Varac sur ce thème. Il résume en disant « Notre corps ressuscité sera grandiose. » Voilà. Au-delà de ce qu'on peut imaginer. Une anecdote aussi au sujet des questions qu'on se pose. Il y a plus de 30 ans, je reconduisais quelqu'un qu'on avait reçu chez nous, qui avait animé un séminaire. Et dans la voiture, son fils, qui avait une dizaine d'années, lui dit au moment, vous savez, où on arrive, 11h du soir, on va descendre, « Papa, ça sera comment au ciel ?» Il dit, « Oh là, c'est pas l'heure de poser cette question-là. » Et notre ami lui répond, mais instantanément, hein, « Nous serons auprès du Seigneur Jésus. » Fin des questions. L'enfant s'est dit, « Chouette, on sera avec Jésus. » Cette réponse toute simple lui a suffi. Je me suis rappelé Marc 10, 14, « Le royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent aux enfants. » Est-ce que le plus important pour nous, ce n'est pas de savoir que nous serons avec Jésus? Pourquoi? Pourquoi la résurrection des morts est-elle indispensable dans le plan de Dieu? Je vous donne ma réponse, vous avez le droit d'en discuter et de ne pas être d'accord. La mort, c'est la conséquence du péché. Si les morts ne ressuscitent pas, la mort a produit son effet et le sacrifice de Jésus n'aurait pas effacé toutes les conséquences du péché. Satan aurait gagné une bataille, il aurait réussi à montrer que Dieu n'est pas tout-puissant. La résurrection de Christ montre que Satan a été vaincu et que Dieu n'a été en rien empêché. On peut lire la fin du texte de 1 Corinthiens 15 au verset 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. La résurrection des morts manifeste la victoire totale et indiscutable de Dieu sur Satan. Et quelle joie que cette perspective de la résurrection. Plus de vieillissement, plus de maladie, plus de souffrance, plus de disputes, plus de querelles. 1 Jean 3 nous dit « Nous savons que lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. » Est-ce qu'avant de lire l'Évangile, vous avez un jour imaginé que vous pourriez être comme ça? Pourquoi on peut le comprendre aussi en deux mots? Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Les justes ressusciteront parce que Dieu est amour, qu'il est fidèle. Rappelons-nous Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et les injustes ressusciteront parce que Dieu est juste. L'Éternel ne laisse pas le coupable impuni, par exemple, dit-on dans la Bible. Alors c'est là que je vais voir si vous avez été attentif. QQO, QCP. Qu'est-ce qui manque? Où? Où est-ce que ça aura lieu? Alors, vous reconnaissez le lieu? Il y a une coupole en or là qu'on... Oui ? L'Égypte ? Pas loin, mais c'est pas ça. C'est Jérusalem. Et plus particulièrement à Jérusalem, ce qu'on voit là, c'est le mont des Oliviers. J'ai aucune certitude, hein. Simplement, il est dit dans Acte 1 que Jésus reviendra comme on l'a vu partir. Il est parti du mont des Oliviers. Est-ce qu'il reviendra au mont des Oliviers? Mais si je vous ai montré cette photo, c'est pour vous voyez que le mont des Oliviers, aujourd'hui, c'est quoi? C'est quoi ça? Vous reconnaissez les enfants? D'une certaine façon, on ne peut pas dire qu'il est tort, mais... Oui ? J'ai pas compris. C'est un cimetière. Et vous imaginez, si Jésus revient dans un cimetière et que les morts ressuscitent, quel symbole ce sera ? Ou ce serait, je ne sais pas. Quelques applications à présent de ce texte pour nous aujourd'hui. Je commencerai par une nouvelle citation de Calvin. Qui d'entre nous, pendant sa vie, ne s'interroge pas sur la vie à venir et sur l'immortalité avec le secret espoir d'y participer ? Fin de citation. Même chez les non-croyants, on trouve cette aspiration à laisser une trace dans l'histoire ou dans les mémoires. En effet, l'Éternel a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, nous dit l'Ecclésiaste, et on se dit, Dieu aurait-il déposé dans nos cœurs une aspiration impossible à satisfaire ? Certes non, dit Paul. La perspective de la résurrection répond à un besoin profond d'immortalité et Dieu n'a pas voulu nous laisser dans l'ignorance ni sans espoir. Première application, c'est que le chrétien, il a une autre approche de la mort. La mort fait peur. Peu avant sa mort, Guillaume Apollinaire, il est vrai qu'il était jeune, il avait 38 ans, s'est écrié « Sauvez-moi, docteur, je veux vivre, j'ai encore tant à faire. » Tandis qu'Agatha Christie, 86 ans, déclara « Je vais rejoindre mon Créateur. » Deux citations extraites d'un livre que je n'ai pas lu, mais dont j'ai trouvé les citations « 200 mots de la fin » de Catherine Guénèque. La perspective de la résurrection change notre point de vue sur la mort. Je ne sais pas s'il vous est arrivé d'assister à des enterrements civils. Moi, j'en ai connu quelques-uns, dont un où je suis sorti, mais désespéré pour ces gens, de se dire, mais il n'y a pas eu un seul mot d'encouragement. Plus il faisait un temps de chien, je veux dire, on a eu froid, on était dans le vent, dans la pluie, enfin, terrible. Aucune espérance. Dans le meilleur des cas, j'allais dire, on se souvient des bons moments passés avec le défunt. On passe une chanson qu'il aimait bien. Enfin, ça paraît bien léger à côté du message de l'Évangile. Et peut-être avez-vous remarqué que beaucoup de non-croyants n'arrivent pas à se faire à l'idée que la mort est un anéantissement total. Quand on parle d'un mort, souvent on entend dire « Ah ben, ils nous entendent là-haut. S'il n'y a plus rien après, pourquoi ils nous entendraient ?» Cette semaine, parlant de Jean-Paul Belmondo, un de ses amis a dit « Ah ben, aujourd'hui, il est avec Verneuil, De Broca, Mal, Houry. Ils vont faire des sacrés films là-haut. » Je ne voudrais pas faire un mauvais jeu de mots, mais je crois que c'est eux qui se font un cinéma, là. Vous imaginez ? Enfin, je me demande vraiment s'ils y croient ou s'ils se bercent d'illusions pour rendre la chose supportable. Il y a en nous un refus de la mort, il y a quelque chose qu'on ne veut pas. Pour les croyants, il y a plusieurs attitudes possibles, j'ai essayé d'illustrer par trois images. Le déni, j'y pense pas. Est-ce que c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui, je veux dire, je sais pas, moi j'ai vécu enfant, je veux dire, j'ai connu le décès d'un grand-oncle, on est allé chez lui, il était là, il y avait un grand dé noir devant la maison, enfin, on apprenait petit ce que c'était que la mort. Bon, je ne dis pas que mes parents nous ont laissé là traîner, hein, mais je veux dire, bon, on a vu, puis après on est reparti. Aujourd'hui, on cache la mort, on n'y pense pas. Alors, vous avez remarqué, à 60 ans, on est jeune. Non, ne me regardez pas, il y a effectivement un peu trop de blanc dans la barre. Non, on nie l'âge, on nie la mort. On peut aussi être paralysé. Mon Dieu. Un jour, je vais mourir. Alors, surtout, pas prendre de risques. On va oublier de vivre. Ou alors, au contraire, on va se dire, je suis encore en vie, ben, moi, je vais la défier, la mort. On va se lancer des défis, rechercher des exploits pour l'exorciser. Pour le chrétien, c'est pas ça, les attitudes. La mort, c'est pas la fin de tout, c'est un passage. C'est pour tous un moment d'épreuve, croyant ou non croyant, parce que c'est le début d'une séparation. C'est douloureux. Ça engendre de la tristesse. Mais il y a quand même une sacrée différence entre un au revoir et un adieu. Avant la mort vient généralement le vieillissement ou la maladie. Notre corps se dégrade petit à petit et c'est une perspective pas très réjouissante et qui peut même être angoissante. Je me souviens d'une personne dans notre église du Nord, vous savez, quand on chantait « Merci Seigneur » et qu'on arrivait à « Merci Seigneur pour la vieillesse », elle arrêtait de chanter et elle reprenait « Merci pour les petits-enfants ». Elle avait au moins l'honnêteté de dire que vieillir, ça lui était difficile et qu'elle avait du mal à chanter ça avec cœur, quoi. Donc elle préférait pas chanter. Je crois que c'est difficile pour tous. Quels encouragements peut nous donner Paul? C'est dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16, pour ceux qui veulent lire. « Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elles nous préparent. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeurent éternellement. Dans l'échelle du temps, notre passage sur terre, c'est un point, alors que notre éternité, c'est quelque chose sans fin. » Une demi-droite, parce que ça commence quelque part et ça ne finit pas ailleurs. Attention, même en retraite, j'ai encore des réflexes. Nous le savons en effet, si notre corps, cette tente que nous habitons sur la terre, vient à être détruit, nous avons au ciel une maison que Dieu nous a préparée, une habitation éternelle qui n'est pas l'œuvre de l'homme. Un autre encouragement dans Apocalypse 21, « Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et je dis, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » La perspective de la résurrection devrait aussi changer notre approche de la vie. Que font ceux qui ne croient pas en la résurrection? Eh bien, Paul dit au verset 32, « Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Au psaume 10, verset 4, il est dit, « Le méchant vit avec arrogance, il ne punit point, il n'y a point de Dieu. » Autrement dit, si on ne croit pas qu'il y aura un jugement, on est prêt à faire n'importe quoi. Et pour nous, alors? Dans l'une des prédications que j'ai écoutées sur ce thème, le prédicateur demandait à l'auditoire « Votre foi en la résurrection serait-elle asymptomatique ?» C'est un mot qu'on entend beaucoup en ce moment. Asymptomatique, ça parle de la maladie, ça veut dire qu'on ne voit aucun signe de la maladie. Est-ce que nous voyons, est-ce que les autres voient dans notre vie des signes de notre foi en la résurrection ? Nous venons de lire ce conseil de Paul, « Ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. » Encore une citation de Calvin, vous me direz, il en abuse peut-être, mais c'est une mise en garde que j'ai prise pour moi. Si l'on examine les projets, les délibérations, les entreprises et les œuvres de chacun, tout se limite à la terre. Autrement dit, les hommes ne regardent qu'à la partie terrestre de leur existence. Cette ineptie provient de ce que notre intelligence est comme éblouie par l'attrait vain et apparent des richesses, des honneurs et des pouvoirs qui l'empêchent de regarder plus loin. Calvin est sévère, mais je dois malheureusement concéder que je me reconnais assez dans ce portrait, et ce texte sonne pour moi comme un rappel à l'ordre, comme une exhortation à regarder davantage aux choses invisibles plutôt qu'aux choses visibles. J'ai dit tout à l'heure que Paul croyait que la résurrection allait survenir assez rapidement. Je me dis qu'aujourd'hui, on comprend mieux pourquoi Dieu n'a pas donné de date. Imaginez que Paul ait dit « La résurrection interviendra après le 12 septembre 2021. » 2021, autant dire l'éternité, quoi. Enfin, je sais pas, quand vous dites à un homme 2021 ans, bon. Pourquoi ne pas répondre à la question « quand ?» Ben voilà, parce que je crois qu'on est beaucoup plus encouragé en ne sachant pas qu'en sachant. C'est Paul lui-même qui va donner la conclusion de ce chapitre au verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Tout ce que nous faisons pour Dieu durant notre vie terrestre a une portée éternelle. En disant cela, je me souviens que mes parents mettaient à côté de la crèche de Noël un santon grand comme ça, avec une petite tirelire. Et quand on mettait une pièce dedans, le petit santon disait merci, et en dessous il était écrit « Jésus vous le rendra ». Bon, je ne pense pas que ce soit la pièce qui importe, mais il y a cette idée que ce qu'on fait pour Dieu, on ne le fait pas en vain. Alors, qu'allons-nous retenir ? Bien, il me semble que le premier point, c'est la résurrection de Jésus est un fait historique. C'est elle qui est le fondement de votre foi. On a entendu que l'Évangile, c'est l'opium du peuple. Vous savez qui a dit cela. L'Évangile, ce n'est pas une invention humaine pour redonner de l'espoir à bon compte. C'est l'annonce d'une intervention de Dieu dans l'histoire. Et puisque Jésus est réellement ressuscité, tout ce qu'il a dit et annoncé est crédible et digne de foi. Et c'est pure folie que de ne pas en tenir compte. On dit souvent que la foi est un saut dans le vide et qu'il est impossible d'avoir la preuve de l'existence de Dieu. Mais la résurrection de Jésus, c'est la preuve demandée. Si vous avez vu le film ou lu dans Jésus l'enquête, la conclusion de Listrobol, c'est que quand on aborde la résurrection de Jésus comme on aborde les autres faits historiques, quand on teste la solidité des sources, quand on compte combien de témoins il y a, etc., ben la conclusion logique, c'est de dire que cette résurrection, elle est plus attestée que bien d'autres choses. C'est Ralph Challis qui disait « Il faut beaucoup de foi pour être athée ». Le second point que je retiendrai, c'est qu'il est important pour chacun d'avoir présent à l'esprit notre sort final. On compare souvent notre existence à un voyage en train. Est-ce qu'il vous viendrait à l'idée de monter dans un train sans vous soucier de sa destination finale ? Ça vous est déjà arrivé ? Moi, ça m'est arrivé de me tromper, mais bon, j'étais pas monté comme ça en disant « on verra bien ». Nous sommes malheureusement souvent absorbés par notre quotidien, Calvin dit « ébloui par l'attrait vain et apparent des richesses, des honneurs et des pouvoirs ». Et Calvin en arrive à cette conclusion, il importe que notre objectif soit de nous accoutumer à mépriser la vie afin d'être incités à méditer la vie future. Alors il faut bien comprendre que le mot « mépriser » ici, il faut plutôt le comprendre dans le sens de ne pas s'y attacher excessivement. Ce n'est pas la primauté, ce n'est pas à cette vie-là qu'il faut donner la première place, c'est notre vie éternelle, puisque pour Calvin, la vie sur cette terre, c'est la raison d'être de faire avancer notre salut. C'est cela qui devrait être notre préoccupation principale. Je voudrais vous remercier pour votre patience, parce que je vois qu'en étant interactif, j'ai été plus long que d'habitude, et je vous propose de terminer dans la prière. Seigneur, je veux te remercier pour tous les encouragements que j'ai reçus en préparant cette prédication. Pour tout ce rappel de texte que nous connaissons, mais auquel nous n'attachons pas forcément l'importance qu'il convient. Merci Seigneur de nous rappeler que tu es mort pour nous, que tu es ressuscité et que tu nous associes à cette résurrection. Merci de nous avoir préparé cette demeure auprès de toi. Et Seigneur, aide-nous à être reconnaissants de tout ce que tu as fait pour nous. Non pas que nous ne soyons jamais dignes de ce que tu as fait. Nous savons bien que nous demeurons pécheurs, Seigneur, et que nous ne pouvons pas gagner notre salut. Mais aide-nous, Seigneur, au moins à nous souvenir de tout ce que tu as fait pour nous et à nous aider à progresser en ce sens. Amen.